Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Cet épisode est le premier d'une collection qui s'appelle « Conversations thérapeutiques ». Tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix Georges, qui est hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans le podcast. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Pour ce premier épisode, nous abordons avec Alix un domaine en plein bouleversement, voire chamboulement, le travail. Via son prisme de thérapeute, elle nous apporte un éclairage sur, notamment, la grande démission dont serait sujette la France actuellement après les États-Unis, mais également l'ordre de nos priorités qui a beaucoup changé, le salariat, les causes des difficultés du recrutement, la vague entrepreneuriale et ses sous-jacents, la violence au travail et ce qu'elle nous propose de faire pour prendre les bonnes décisions dans notre vie professionnelle. Alors j'arrête de parler et je vous souhaite une très bonne écoute avec Alix Georges. Alix, merci beaucoup d'être de nouveau dans mon podcast, je suis vraiment ravie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es une hypnothérapeute, mais thérapeute, j'aime le dire, au sens large également. Tu es déjà venue plusieurs fois dans le podcast.
Deux fois.
Donc, je vais te demander de te présenter rapidement, même si je renvoie tout le monde, enfin, toutes les personnes qui écoutent cet épisode à écouter de nouveau ou pour la première fois tes épisodes précédents. Mais allons-y. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Et après, moi, j'introduirai notre échange, en tout cas la thématique de notre échange.
Bonjour Estelle, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Alix Georges. J'ai été interviewée effectivement déjà deux fois dans ton podcast. Donc, je suis hypnothérapeute et thérapeute au sens un petit peu plus large. Je suis installée dans mon cabinet maintenant depuis 4-5 ans et j'ai travaillé auparavant dans le monde de l'entreprise.
Alix, si je t'ai demandé de revenir dans le podcast, à vrai dire, c'est parce que j'ai envie d'aborder avec toi plusieurs thématiques, on va dire.
Oui.
Des choses que toi-même, tu peux aborder dans le cadre de ta profession avec tes patients. Et c'est vrai que moi, j'ai un sujet de prédilection, en tout cas un sujet qui m'interpelle énormément, c'est le travail aujourd'hui au sens large.
Oui.
Voilà, donc... Selon toi, ma première question, qui est un peu large, toujours partant de l'expérience que tu peux récolter au sein de ton cabinet, c'est quel est le rapport qu'on a au travail aujourd'hui, selon toi ?
Oui, alors, question très large.
C'est une généralité, mais
oui.
Tu as certainement observé depuis que tu travailles et également depuis que tu as monté ton cabinet. Tu as peut-être observé une sorte de changement du rapport au travail.
Oui, effectivement.
Comme tout un chacun, finalement.
Effectivement, c'est un sujet sur lequel tu m'as invité, où j'ai tout de suite dit oui, parce que c'est un sujet très intéressant, le monde du travail, dont on parle assez peu, finalement, dans le milieu politique, journalistique, etc., et alors qu'il concerne la plupart des jeunes actifs ou plus âgés, etc., des personnes actives. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel, moi, j'observe au cabinet un changement immense, une rapidité du changement et aussi dans ma vie personnelle, puisque voilà, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le monde actif, effectivement beaucoup de changements. Ce que moi j'observe, si tu veux déjà, c'est que en fait il y a je sais pas, à peu près une dizaine d'années, on a vu émerger tout le mouvement du ce que j'appelle le bonheurisme au travail, c'est-à-dire que le travail a commencé à changer de posture, en fait, le milieu des directions a commencé à changer de posture face au salariat, qui était un salariat finalement très classique, pour justement apporter des chief happiness officers. Ça a été l'émergence des grands open space avec les tables de ping-pong, qui a été finalement très critiquée. Donc, je renvoie là-dessus à toutes les études de Julia Tunas, la philosophe, qui parle beaucoup de ça, justement, et qui parle de la comédie humaine au bureau. Et aujourd'hui, depuis le confinement, et je pense que c'est ça qui est intéressant d'analyser, il y a eu un changement radical du rapport au travail. Et on pourrait même dire qu'il y a eu un changement de rapport de force, finalement, où le salarié est devenu un individu qui a pris une forme de pouvoir aussi en imposant du télétravail, en imposant une forme de quête de sens qui est très satisfaisante, très bien. Mais voilà, c'est tout ce changement que je peux observer avec toutes les paradoxes qu'on peut y voir. Et je te laisse me poser des questions justement pour davantage en parler.
Alors, il y a un mouvement qui vient encore une fois des États-Unis, parce qu'en France, on vit souvent des vagues... après les États-Unis.
Oui, c'est vrai.
Avec quelques années d'écart. On parle de la grande démission.
Oui.
C'est un sujet que je voulais aborder avec toi parce que je le ressens également en France.
Oui.
Ça n'est plus qu'aux États-Unis, c'est là, c'est sous nos yeux.
Oui.
Comment tu analyses cette grande démission? Est-ce que tu la ressens déjà?
Oui.
Et comment tu l'analyses?
Alors, effectivement, aux États-Unis, je relisais les chiffres là quand on préparait. Donc, 38 millions d'Américains ont démissionné du monde de l'entreprise en 2021.
C'est énorme.
Ça représente 4 millions par mois.
C'est incroyable.
La plupart, dans ce que je lisais, ont retrouvé un emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une flexibilité et une réactivité
bien
du
sûr.
Monde du travail qui est assez intéressante.
Surtout aux États-Unis, parce que le droit social n'est pas le même.
Mais... Exactement. En France, on n'est pas dans ces chiffres-là, mais le niveau de démission en 2021, enfin là, dans les derniers mois, a été en hausse de 20% par rapport à l'année précédente.
C'est énorme aussi.
Énorme.
20%.
En sachant qu'on est dans une économie où on dit qu'il y a du chômage, etc. Donc, il y a une forme de paradoxe aussi par rapport à ça.
Bien sûr.
Qui est
très intéressant à analyser. C'est-à-dire que...
C'est ça.
On a des motivations qui ne sont plus d'avoir un travail et une stabilité au travail.
C'est exactement ça, en fait. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, que moi, je constate au cabinet avec ma patientèle, à petite échelle, mais qui est un mouvement évidemment beaucoup plus vaste, c'est que les priorités ont changé.
C'est ça.
Aujourd'hui, c'est ça. À l'époque, on était vraiment dans la carrière très verticale à la papa. Entre guillemets, enfin très dans une société très paternaliste. Aujourd'hui, le travail par passion est devenu le premier critère en fait de motivation des jeunes, notamment des 18-24 ans à 42%. Le deuxième critère est le salaire, simplement à 25%. Quand on sait que les jeunes aujourd'hui sont assez précaires, c'est intéressant. On sait, par exemple, aujourd'hui que aussi bien les grandes banques, il y a eu des statistiques là-dessus, ont du mal à recruter les jeunes. Comme les grandes surfaces ont du mal à recruter les jeunes.
Les grands groupes.
Ou les grands groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part, les jeunes sont plus, les jeunes et les moins jeunes, hein, puisque ce mouvement touche la société.
Tous les âges.
Exactement. Pas tous, mais beaucoup.
Peut-être les débuts de carrière et les fins de carrière, non?
C'est ce que je constate, effectivement. C'est ce que je constate, c'est beaucoup des interrogations chez les jeunes et beaucoup d'interrogations chez les...
Après 20, 30 ans d'expérience.
Ouais, 45, 50 ans en âge de la personne. Des démissions, des quêtes de sens, des reconversions. C'est très fréquent, en fait, à cet âge-là. Donc, c'est effectivement ces deux segments de population qui sont, je trouve, au cabinet, en tout cas, très concernés. Ce qui fait que ça crée... une société en fait qui se complexifie beaucoup. D'un côté, des gens qui sont prêts à une forme de précarité, qui sont prêts à revoir leur motivation par rapport à l'époque, donc avec tout cette quête de sens qu'on voit aussi, qui est aussi le résultat sur ce qui est essentiel, c'est bien. Hein. Ça aussi, ça limite. Enfin, et ça, je propose qu'on en parle si tu le souhaites tout à l'heure. Et aussi d'un autre côté, en fait, le monde de l'entreprise qui a des tensions de recrutement très forte, qui doit trouver des nouvelles façons de motiver les collaborateurs, surtout dans le secteur secondaire, les tensions de recrutement. Enfin, l'industrie en France, on en parlait en off tout à l'heure, c'est un secteur qui a beaucoup souffert. Et tu m'expliquais cette notion très intéressante qui t'avait été apportée par l'économiste Marc Fiorentino, du fait qu'on arrive de plus en plus dans une société de loisirs, dans une société d'individus, dans une société de jouissance à tout prix. C'est bien et c'est pas bien. Donc,
bien sûr.
En gros ce que je constate. En tout cas, c'est la fin des sacrifices, c'est la fin du devoir moral, c'est la place au choix à tout prix. Et voilà, il y a un changement à ce niveau-là.
Et d'une certaine manière, c'est également la fin de la valorisation du travail bien fait, de la persévérance. Enfin, comment dire, je veux pas tout voir noir, hein, mais Peut-être qu'effectivement, on a le sentiment que les choses doivent venir vite ou jamais, quoi.
Il y a ce sentiment, et je dirais qu'il y a surtout le sentiment qu'on, aujourd'hui, parce qu'on est dans une société d'individuation très, très forte, on a besoin de sentir que ça vient de soi. C'est-à-dire que c'est vraiment... ce qu'on a appelé le mouvement des bullshit jobs, où en fait on est aliéné d'une certaine façon dans son travail, on ne trouve plus le sens à ce qu'on fait. Les psychologues ont appelé ça la démission intérieure. Clairement, ce phénomène, il est en train de prendre très très fortement dans la psychologie générale. On veut du sens à tout prix, c'est cette quête de sens. Ce qui fait, on peut très bien faire bien un travail, mais pour soi. Et c'est tout l'avènement qu'on voit beaucoup dans la société. Tous ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, mais ces gens très diplômés qui se mettent à devenir boulangers, qui se mettent à devenir artisans, etc. Ça reste un microphénomène, hein, bien entendu. Mais une façon d'être prêt à beaucoup travailler, mais pour soi, pour savoir ce qu'on fait, mais plus pour les autres. Ça peut poser question, effectivement, au niveau sociétal.
Bah oui, puisqu'en fait... c'est ce qu'on disait aussi en off, on se replie beaucoup sur soi, on est moins à l'écoute de la vie de l'autre, on a peut-être moins envie de faire lien, de faire société, de faire entreprise, puisqu'entreprise, voilà, c'est un ensemble de personnes qui ont finalement un but commun. Est-ce que finalement, comment dirais-je, on pourrait lier ça d'ailleurs au full remote, tu vois, on parlait de ça, le fait que maintenant on ait des jobs où clairement on peut être embauché dès le début sans avoir à pointer au bureau, jamais même, de manière très occasionnelle, voire très peu. Non, ce que je voulais te demander, c'est indépendamment de la perte de sens que tu évoquais, pourquoi selon toi il y a autant de burn-out, parce qu'il y en a beaucoup. Encore plus maintenant, je pense. Voilà, et qu'aujourd'hui, en plus, c'est devenu vraiment quasiment... je sais pas, il y a 4-5 ans, on n'en parlait pas vraiment du burn-out. Enfin,
moins qu'aujourd'hui.
On en parle énormément aujourd'hui. C'est limite devenu commun. Enfin, tu vois.
Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent pour des questions de burn-out. Bon, évidemment, il faut toujours qu'ils voient un médecin en plus à côté, parce qu'un burn-out, c'est une maladie. Donc, c'est quelque chose de très grave, en fait. Mais ce que j'observe, bizarrement, c'est que malgré tout ce qu'on est en train de se dire, justement, sur la quête de sens, l'individuation, etc., l'entreprise, bon, il faut bien gagner sa vie, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont dans le monde de l'entreprise aussi par nécessité, et devient quand même un monde, de ce que je constate, où il y a une vraie violence, en fait, au travail. Pas toujours, évidemment, mais je pense à certains cas que j'ai pu recevoir, puisque moi, j'ai un biais.
Bien sûr.
Mais où, en fait, on en demande de plus en plus, et ça crée un phénomène d'aliénation, de monter en puissance, de trouver aussi la bonne posture que les gens n'arrivent pas à trouver. Enfin, il y a une forme de violence dans les rapports humains qui, je pense, qui était moins le cas à l'époque, qui est aussi du fait de la porosité, du fait qu'aujourd'hui, on amène le travail à la maison. Enfin, cette espèce d'effacement des frontières a aussi créé ça.
Mais en plus, il y a aussi une autre nouvelle catégorie d'entreprises où il y a des gens qui créent des entreprises qui eux-mêmes n'ont pas eu d'expérience dans le monde de l'entreprise.
C'est ça.
Donc, ils
ne
savent pas manager, ou en tout cas, ils ne savent pas trop gérer des sujets sociaux.
Oui, et c'est tout ce dont on parlait en off aussi. C'est la fin d'une forme de... comment dire, d'entreprise, on va dire, structurée, protectrice, etc. Effectivement, aujourd'hui, notamment dans le monde des startups, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Et certains patients me disent qu'eux-mêmes se retrouvent à devoir protéger leur patron. Enfin, en fait, les rôles sont échangés. Donc, ce qui fait que, juste psychiquement, ça crée des conflits, des conflits, des inversions des rôles, des phénomènes de maternage dans le monde de l'entreprise qui n'ont pas lieu d'être, etc., où chacun cherche sa place et où, bah, du fait de cette déstructuration des postures et des postes de chacun, c'est compliqué, ça crée des burn-out, notamment.
Est-ce que tu crois, du coup, qu'on est moins apte, quand je dis « on », moi, on m'a toujours dit « on est un con », mais je n'ai pas les généralités, mais en gros, c'est est-ce que la société actuelle française... est moins apte à être salarié. Est-ce que le statut de salarié est complètement remis en question ? Est-ce que tu as le sentiment, au travers des échanges que tu peux avoir avec ta patientèle, que les gens ne veulent plus être salariés ?
Certainement, moi, je le vois au cabinet, ça c'est évident. Après, j'ai un biais, qui est celui, quand on vient en cabinet, on cherche du sens, etc. Ce que je constate, c'est beaucoup de conflits, en fait, entre... Bon, il y a beaucoup de gens qui démissionnent, qui créent leur boîte. C'est un vrai mouvement qui s'installe en profession libérale, qui se reconvertissent, etc. Et après, dans ce que je constate, c'est le conflit très fort des gens qui sont dans le salariat. Mmh. Il y en a plein pour qui ça se passe très bien. Enfin, ils sont très heureux. Mmh. Mais entre la nécessité de gagner sa vie, qui est une nécessité très importante, et je pense qu'on n'en parle pas assez dans la société d'aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire, à un moment, il faut être pragmatique. Enfin, il y a des...
Pour remplir le frigo.
Faut remplir le frigo, nourrir sa famille. Mmh. Et c'est bien. Enfin, il n'y a pas de... Et en fait, comme on est dans une société où on veut se définir de façon absolue, voilà, on veut dire, moi, je fais ça dans la vie.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Il faudrait que ça nous définisse, alors que non, le travail c'est une partie de soi. Voilà.
On n'est pas notre boulot.
Mais non.
Ouais. Et c'est trop ça, de gens souvent... ont tendance à confondre le qui on est et ce
exactement.
Qu'on fait.
Et ça, tu m'en parlais tout à l'heure quand on préparait ça, c'est aussi probablement une conséquence des réseaux sociaux, c'est-à-dire que on se définit en une image, on se définit en une phrase, on se définit... Non, enfin, bon, en tant que thérapeute, évidemment, je mets de la complexité là-dedans, c'est sûr et certain. Donc ça aussi, enfin, c'est... Voilà, ça pose question. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui ont du mal à supporter leur posture de salarié, alors qu'elle est très bien, très légitime, très compréhensible, très noble, très respectueuse. Donc,
bien sûr.
C'est une vraie question. Hein.
Bah, c'est une vraie question, d'autant qu'aujourd'hui, moi, je me demande, si tu veux, je me mets à la place de quelqu'un qui est salarié, qui finalement aime bien son job,
qui
est content d'être là. Et puis qui se fait un petit peu titiller, chahuter charrier sur le fait qu'il soit salarié, mais qu'il n'entreprenne pas, qu'il ne fasse pas des trucs de fou à côté, etc.
Oui.
C'est un peu déstabilisant, tu vois. Enfin, je pense qu'il faut avoir maintenant la tête sur les épaules et les reins solides pour se dire, bah non, je suis en poste, je suis content d'être là, je suis content de rembourser mon crédit pour acheter mon appartement, etc. Tu vois, et je crois qu'il y a un moment, il faut aussi rassurer un petit peu les gens en leur disant, bah, tout va bien, quoi. Enfin, c'est OK si t'es content en étant comme ça.
En fait, tout dépend où se situe le conflit. C'est-à-dire que tout peut pas aller forcément toujours bien pour tout le monde. Mais
si c'est un conflit intérieur, c'est plus compliqué.
C'est ça. Là, dans ce cas-là, c'est important de se poser la question. Et c'est tout à fait audible, évidemment. Si le conflit est simplement lié parce que je vois l'autre sur Internet, sur Instagram, je ne sais quoi, qui paraît mieux que moi, bon, c'est...
Bien sûr. C'est la fin. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner.
Bah, où se situe son désir à soi? C'est toujours la question qu'on doit se poser.
J'avais une autre question, Alix.
Oui.
Selon toi, est-ce que... J'avoue que c'est une question un peu bateau, mais est-ce que tu vois des traits de caractère assez communs avec des gens qui ont la capacité à entreprendre? C'est-à-dire qu'en fait, je m'interroge toujours sur « sommes-nous tous des entrepreneurs ?» je tiens à signaler que, selon moi, nous ne le sommes pas tous.
Oui.
Et je pense qu'il faut vraiment faire en sorte de comprendre ça.
Oui.
Parce que entreprendre sa vie, c'est autre chose que entreprendre une entreprise.
Exactement.
Mais du coup, est-ce que toi, tu décèles des traits communs de personnes qui te disent, voilà, je suis salarié, je change de vie, je veux entreprendre, et qui arrivent finalement à vivre de leur entreprise, qui sont heureux dans cette voie-là. Voilà, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des marqueurs au vert, enfin comment dire, oui c'est ça, c'est vas-y, lance-toi, entreprends, tu vas y arriver. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a un format de personne, de contexte qui fait que là les planètes sont alignées, les traits caractéristiques sont là pour entreprendre et faire en sorte d'être bien et serein dans cette voie.
Mmh.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
J'entends la question. Bon, déjà, je me permets une mini digression, c'est que t'as fait la différence entre entreprendre sa vie et entreprendre dans la vie, qui est effectivement très importante. Moi, mon point de vue, je pense qu'on a le même, c'est on est tous entrepreneurs de sa vie, et c'est même une nécessité morale et
bien
éthique.
Sûr. Ouais.
On ne peut pas tous entreprendre dans la vie au sens de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Et ça, tu fais bien de montrer ce point, parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans un espèce de mythe de l'entrepreneuriat, du fait que je suis maître aussi de ma vie. L'entrepreneuriat économique, entrepreneurial au sens de du monde de l'entreprise, c'est quand même très particulier. Enfin, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est quand même quelque chose que je souhaite
rappeler.
C'est extrêmement solitaire. Il y a une solitude. En fait, moi, c'est ce que je constate au cabinet, parce que j'ai quand même pas mal de patientèle libérale, entrepreneuriale, etc. Une solitude extrêmement difficile que pas tout le monde n'est capable
d'affronter,
d'assumer. Mais enfin, encore une fois, c'est pas bien ou bien. Enfin, c'est en fait la question à laquelle je renvoie toujours, c'est où est son désir, pourquoi je veux entreprendre, pour quelles raisons psychologiques en fait, parce que c'est toujours une raison psychique en fait à aller et ensuite la déployer. En soi, s'il y a un désir, faut toujours l'écouter, mais faut essayer de comprendre l'intention derrière ça.
Exactement. Est-ce que c'est une intention réelle et personnelle, ou est-ce que c'est une intention imposée?
Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est la société qui me l'impose? Voilà. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et encore une fois, on peut tout à fait entreprendre également dans l'associatif, dans sa vie de tous les jours. Je considère qu'il y a beaucoup de mères qui sont des entrepreneurs du quotidien, s'occupant de leur famille, des mères au foyer notamment. Enfin, c'est voilà, la question est plus large que le statut social.
Exactement. Je reviens un petit peu sur ce dont on parlait au tout début, à savoir la grande démission.
Oui.
Il y a une part de souffrance au travail, je pense. Tu en parlais également dans la violence qu'on peut ressentir. Parce que globalement, le climat est aussi un peu électrique. Il faut quand même replacer les choses dans le contexte.
Je fais une petite précision. On est vraiment là dans une période extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Voilà. Tu parlais tout à l'heure, quand on discutait tous les deux, du fait qu'on est sur des espèces de tectoniques de plaques qui bougent. C'est important qu'on le rappelle. C'est une période complexe.
Ouais. On a le sentiment que le sol glisse un peu sous nos pieds. Je parlais de la souffrance au travail. Effectivement, c'est lié au contexte, mais pas que. Quels sont, selon toi, les ressorts pour ne pas trop souffrir au travail?
Excellente question. je vais répondre...
C'est un peu bateau, parce que je me doute que tu peux en parler pendant des heures. Tu vois, mais si tu avais peut-être éventuellement un conseil, peu importe, tu vois, mais... Je sais que moi, j'ai souffert dans mon travail à une époque.
Oui.
Je ne me rendais peut-être pas forcément compte, mais j'observais les autres autour de moi et je me disais, tiens, eux, ils ne souffrent pas. Tu
n'en savais rien.
Ouais.
Travail, c'est le monde de l'entreprise, c'est aussi un petit théâtre. On fait tout semblant, on a un costume, on a un titre, on a un poste, on est soi, mais on n'est pas... complètement soi. C'est le jeu social qui veut ça aussi.
Ouais. Alors après, c'était plus... ils avaient certainement une capacité à se mettre à distance.
C'est ça.
À prendre de la distance par rapport à un événement, par rapport à une remarque, par rapport à, je sais pas moi, un rendez-vous qui s'est plus ou moins bien passé. Là, je m'adresse vraiment aux gens qui arrivent sur le marché du travail, qui peuvent ressentir parfois des choses un peu bizarres, comme moi-même j'ai pu le ressentir au début de mon expérience professionnelle. Mais comment on fait pour pas trop souffrir au travail?
Je vais te répondre la réponse bateau. Il faut savoir se protéger.
C'est pas bateau.
Aussi entre guillemets simple et donc très complexe que ça puisse paraître, c'est compliqué. Avec on ramène l'ordi à la maison, on a les mails qui nous suivent sur les portables, les gens qui appellent les week-ends, etc. Donc c'est très compliqué. Donc le fameux vie pro vie perso. Donc on y vient de plus en plus. Voilà, le télétravail, les gens qui veulent se recentrer sur leur famille, c'est bien. En soi, c'est bien. Donc, savoir se protéger. Et tu parlais justement de l'exemple des réunions tout d'un coup qui se passent mal, ou on interprète, entre guillemets, mal une phrase qu'on a pu entendre, etc. Ça, c'est important d'analyser pourquoi ça nous arrive. Est-ce que ça nous rappelle une situation du quotidien? Est-ce que ça nous rappelle la façon dont nos parents nous parlaient, dont on a pu mal vivre une expérience à l'école? Qu'est-ce que ça va résonner pour tout de suite permettre de faire le décalage?
C'est ça.
C'est toujours, quand on a comme ça une souffrance, c'est souvent une régression infantile qui réapparaît. Souvent, je ne veux pas faire de généralité.
Non, mais t'as raison.
Parfois, il y a des cas de harcèlement, c'est juste du harcèlement. Il n'y a rien à voir avec l'enfance, etc. Mais c'est important d'analyser pourquoi ça fait mal. Et c'est quand on comprend pourquoi qu'on peut mettre la bonne distance. Tout est une affaire de distance.
Alors, en parlant de distance, justement, c'est quel conseil tu donnerais éventuellement pour prendre cette distance, parce que c'est toujours un peu compliqué, si tu veux, quand t'as un employeur ou un investisseur, parce que il y a quand même des les limites je reprends ce que je veux dire, mais c'est quand tu fais une grosse levée de fonds, on va dire que tu as une entreprise, finalement, ton investisseur devient un peu ton patron, quoi.
Oui,
d'une certaine manière, c'est un peu comme ça que ça se passe.
Oui, mais comme un banquier, comme un
Donc, du coup, comment on pose des limites à ça? Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il y a une nouvelle autorité, que on est une génération de personnes qui parlons un peu plus, on s'écoute un peu plus.
Oui.
On n'est plus dans une ère de personnes qui acceptent, qui fait le dos rond. C'est-à-dire,
vois,
on est un peu dans une phase où les jeunes, mais même pas les jeunes en fait, je pense même pas que
c'est
ce soit
du...
c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus trop la critique, on n'accepte plus trop l'autorité, on n'accepte plus trop le fait de rendre des comptes.
C'est ça.
Bon,
bah, comment on s'individualise de plus en plus? On prend de plus en plus aussi les choses de façon peut-être trop globale par rapport à soi. C'est-à-dire une critique au travail qui peut être légitime peut devenir tout d'un coup une critique qui a une résonance trop forte. Enfin, c'est ta question, en fait.
Exactement.
Comment, du coup, trouver la bonne distance? C'est pas tout confondre. Le boulot, c'est le boulot. Le perso, c'est le perso. Enfin, c'est basique, ce que je dis, mais c'est très, très important. Et faire la part des choses. Faire la part des choses.
Mais est-ce que tu observes une communication accrue? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu sens que les gens qui souffrent ou qui ont des problèmes au travail quand ils viennent te voir, est-ce que tu sens qu'il y a du répondant? Est-ce qu'ils peuvent plus parler à leurs supérieurs? Est-ce qu'il y a plus d'écoute au sein de l'entreprise?
Ça dépend. Non, moi, ce que je constate, c'est que justement, c'est mon point de vue en tant que thérapeute, mais c'est que justement, j'ai l'impression que se rejouent souvent dans le monde de l'entreprise des espèces de conflits dans la hiérarchie, tu vois ce que je veux dire, avec où se rejouent des conflits psychiques chez les uns. Enfin, je trouve, pour me réexprimer, que dans le monde de l'entreprise, justement, les gens ne prennent pas assez de recul et ne respectent pas assez les postures de chacun. Donc, mais c'est très compliqué.
Je pense que tu as dit un truc très important, c'est on n'est pas notre travail.
Non.
Donc ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre un petit peu de dissociation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
C'est pas évident.
C'est pas facile.
Je pense que c'était plus facile à l'époque, pour le coup.
Certainement.
Oui.
Certainement, les choses étaient plus silencieuses et plus discrètes.
Ouais,
et moins
puis
vues,
on avait fini, on rentrait chez soi.
Et personne posait de questions.
Exactement.
En fait. Donc peut-être que finalement, il y avait du bon là-dedans.
Oui, probablement.
Peut-être qu'on peut aussi dire que tout le monde n'est pas forcément entrepreneur et que il faut peut-être attendre un peu avant de claquer la porte.
Oui.
En tout cas, essayer de
tout
d'en
en
parler,
s'écoutant, bien
tout en
évidemment.
S'écoutant, mais
et en sachant qu'on peut entreprendre dans d'autres domaines.
Bien sûr.
C'est comme je disais
même
tout à l'heure.
Associatif ou familial.
La famille,
ou, bien sûr.
Les copains, enfin plein de choses.
Ouais. Ou même par le sport. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire aujourd'hui. Peut-être rappeler que toi aujourd'hui tu as une compétence nettement plus large que l'hypnothérapie. Enfin, moi, pour moi, c'est important de le dire. Et
je te remercie d'en parler.
Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, je pense que souvent quand on est hypnothérapeute, on considère qu'on peut aller te voir uniquement parce que tu vas permettre aux gens d'arrêter de fumer ou de perdre du poids, etc. Mais bon, normalement, tu traites tout un tas de sujets nettement plus larges. C'est pour ça que je dis que tu es thérapeute et que tu n'es pas uniquement hypnothérapeute. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter? Parce que on s'était dit qu'on allait faire un épisode qui allait pas durer 2 heures. Comme
format
ça,
court, exactement.
Comme ça, on garde un peu plus de suspense pour tes prochaines venues dans le podcast. Mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le travail aujourd'hui? Une question que je t'ai pas posée. T'es pas obligée. Hein, après, il y a pas de nécessité de le faire, mais peut-être un message à passer.
Bah, merci déjà pour ton invitation, pour cette. On a dit qu'on appellerait ça conversation thérapeutique et ça me plaît beaucoup de le faire. Donc merci beaucoup et merci de me permettre de le partager avec tes auditeurs. Non, sur le travail, vraiment encore une fois en tant que thérapeute, ce que j'ai à dire, c'est très important de s'écouter, mais de s'écouter au bon niveau. C'est-à-dire pas en fonction des autres, en fonction de soi, de où est son désir, de pas
important.
Ni culpabiliser, ni se comparer.
Je pense que
c'est
ça le meilleur message qu'on peut faire passer.
C'est ça. S'écouter à son niveau.
À son niveau.
exactement avec son désir à soi, où se situe-t-il ? Et s'il y a un conflit, en général, on le ressent assez fort. Mmh. Et dans ce cas-là, avoir le courage de l'affronter. Mmh. Ça aussi, je dirais que c'est important. Mmh. S'il y a un conflit personnel, on le ressent de façon générale. Ça crée souvent du symptôme, d'ailleurs. Et avoir juste le courage de l'affronter, de l'adresser.
D'autant qu'en plus, ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'aussi oui. souvent, on considère que c'est sa sphère professionnelle qui est le problème. On ne résout peut-être pas le problème de fond.
Exactement.
Et que ça peut se répercuter Exactement. Ensuite sur sa Exactement. Vie d'entrepreneur ou de
reconversion.
Enfin, oui. voilà. C'est-à-dire oui. que si on ne résout pas le problème même oui. dans un... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément le job et l'entreprise oui. au moment T oui. qui est responsable mmh. de notre état.
Oui. Et quand j'ai avoir le courage, je ne veux pas que ça fasse peur. C'est-à-dire que souvent... ce courage apporte une douceur incroyable. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Affronter le sujet, quoi.
Exactement. Enfin,
c'est faire en sorte d'affronter son sujet c'est et de ça. Prendre à bras le corps, mais ça se fait pas dans la violence ou dans la
pas
difficulté.
Pas du tout.
Etc.
Au contraire. Ouais, ouais. Au contraire. Et sans qu'on ait peur que tout. Parfois, on a peur justement quand on affronte un peu les choses que tout parte à volo, etc. J'ai envie de dire que c'est le contraire qui se passe.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Merci beaucoup, Alice.
Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir.
On va se retrouver prochainement avec une nouvelle thématique.
Merci, Estelle.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.